Morey Live Post.
Morey Live Post.
Morey Live Post.
C'est sûr, hey, il s'en est passé des choses en fin de semaine qu'on a essayé de cacher. Le long week-end, hein? Les longs week-ends. On commence par... Ben, il n'y a rien de moins écouté, je pense, qu'un bulletin de nouvelles régional le dimanche d'un long week-end. Ah ouais. C'est bien, bien rare le monde du dimanche soir qui sont en congé le lundi qui vont se dire « Maman, assis-toi devant la TV, on regarde les nouvelles. » Ben, c'est dimanche soir qu'on vous a présenté ces gens-là.
J'ai entendu plusieurs préoccupations dernièrement au niveau des vibrations. C'est des préoccupations que je partage, notamment lors de la phase de la construction, mais aussi après la mise en service. Je pense que la CDPQ Infra pourrait nous rassurer là-dessus.
Si c'est un secteur assez patrimonial, tu sais, les maisons ici ont en moyenne 150 ans. Bien, c'est sûr que là, on a peur que les fondations, tout ça, est-ce que ça pourrait, s'il y a du dynamitage, est-ce que ça pourrait créer des dommages? CDPQ Infra n'a pas encore informé là, la population qui vit par-dessus le futur tunnel. Mais je pense que ce serait le moment là, d'aller voir les gens puis de leur dire, écoutez, ça va se passer comme ça.
Ouais, mais ils le feront pas parce que depuis 2018 qu'on a de la misère à aller chercher de l'information. Les gens que vous avez entendus, c'est Céline Fueza c'est Anthony, j'allais dire Antoine, Anthony Cadoret. Écoute, ils sont préoccupés, on les comprend, là. On comprend tout ça, puis gros bulletin, on laisse de la place aux citoyens, on est inquiète, ça va se passer comment la construction du tunnel, il commence cette année. Mais bâtard, vous vous réveillez, tout est fait. Vous achetez un instincteur, la maison passe au four. Il n'y a rien à faire, là. C'est des PQ Infra. Ils jasent pas. Puis quand ils jasent, ils disent beaucoup de mots pour pas dire grand-chose, un peu comme Geneviève Guilbeault. Donc, résultat, non, vous n'aurez pas de nouvelles. Vous ne serez jamais rassuré. Tant il y a aussi longtemps que ce tunnel-là ne sera pas fait, construit, revampé nommez tout ce que vous voulez, là. Vous ne le serez pas rassuré.
Ben moi, la chose que j'ai retenue le plus dans ce reportage-là, c'est ça.
La CDPQ Infra indique de son côté que le responsable des travaux, le consortium Tram Alliance, réalise actuellement des analyses et des relevés sur le terrain pour choisir des méthodes de construction reconnues et les mieux adaptées au secteur. Les travaux devront se réaliser conformément aux normes en vigueur afin de protéger le cadre bâti et limiter les vibrations, ajoute-t-on. Le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste demande plus de prévisibilité.
C'est des PQ Infra.
Bon, j'arrête, ouais, si oui. J'ai pas mal de te jouer. Ouais. Mais ce que je comprends, c'est que ça donne un peu raison à ce que Stéphane Lachance disait la semaine dernière. Ils savent pas comment le faire, le tunnel, là. Ils savent toujours pas comment ils vont s'y prendre présentement, là.
Et c'est la raison pourquoi ils vont creuser, ils vont en exploration.
Donc, l'histoire que tout est réglé, tout est bon, non, là, non. Ben, moi, ce que je comprends dans le reportage, c'est qu'ils le savent pas encore. Fait qu'on verra.
Dans les autres choses qui se sont passées en fin de semaine, c'est le gouvernement Carney. Le gouvernement Carney qui, hier, s'engage à évaluer un éventuel projet de l'éoduc de l'Alberta. Faut comprendre qu'il parle pas à son monde, là, parce que s'il était fier de cette annonce-là, il l'aurait faite aujourd'hui.
Oui.
Mais le fait de l'avoir faite hier pendant que toutes les presses étaient en congé.
Vendredi, par exemple,
vendredi, ouais. Ben, c'est durant le week-end.
C'est ça.
Le fait qu'il l'ait fait ce week-end, et en plus par communiqué, là. Il n'y a pas eu de point de presse ou c'est vendredi après-midi par communiqué. Mais si, on s'entend pour dire que si tu es fier de ton projet, si tu es fier de ta nouvelle, ben tu convoques la presse, puis oui. Tu es à la Chambre des communes, tu te présentes au micro, puis tu en parles avec des ministres à côté de toi, puis let's go, on jase, on répond à vos questions. Mais non, on a caché ça. C'est pas une mauvaise nouvelle, je comprends, là, d'aller de l'avant, quoi qu'il n'y a toujours pas de projet.
Non, c'est ça. Il n'y a pas encore de projet. Daniel vent. Smith est supposé arriver avec quelque chose, pas pour cet automne, l'autre automne ensuite. C'est ce qu'il a dit. Puis bizarrement, il y a des élections en Alberta l'autre automne.
Christine Fréchette est allée montrer à Emmanuel Macron qu'il avait des plus gros sourcils que lui. Ça s'est passé hier du côté de l'Élysée. Elle lui a donné un gilet du Canadien d'Alexandre Texier.
Ben oui.
Mais au final, elle allait là pour avoir un petit peu de soutien pour Montréal, pour
espèce de banque de la défense.
Le siège social de la banque de la défense. Puis Emmanuel Macron, il n'y a pas donné. Donc, tu ressors de là. Oui, elle dit qu'elle va faire des annonces économiques, tout ça, mais ça reste le même plan.
Encore une fois, elle avait l'air heureuse d'être contente. Là.
Ah oui, elle a du fun.
Je suis là. Elle fait, c'est juste moi quand elle rencontre justement des gens comme ça à l'international, elle fait un petit peu groupie.
Oui, elle fait groupie, mais sais-tu quoi? Elle sort son image de Kodak parce que ce qu'elle est en train de se faire, c'est c'est une page Instagram pour la campagne électorale qui va commencer tout de suite à la fermeture des travaux au mois de juin. C'est ça qu'elle est en train de faire, là. Elle est en train de pouvoir dire, je vais répondre à Paul Saint-Pierre Plamondon, puis aux pharmaciens, puis à Éric Duhaime. Je suis allé en France, j'ai déjà rencontré des gens.
Je connais les grands dirigeants. Ouais, c'est ça. Ouais. Le président français, un des tops de l'administration américaine.
Ça, c'est comme le producteur, là, avec ses lunettes fumées, qui dit, ben des contacts.
Ben, c'est ça. Le voyage à Washington, puis le voyage en France, c'est des dépenses électorales payées par les contribuables. En plus.
Oui. C'est légal. Ça.
Ben oui, c'est légal. Puis ils le font tout, je comprends. Mais voilà, première grosse chaleur, ça c'est beau, on en a parlé, c'est réglé.
C'est pas cette semaine.
C'est pas ici, non. Oui,
ouais, ouais. Les droits de douane sur des champignons.
Oh!
Les droits
Quel type de champignons?
Les champignons comestibles.
Oui, ah, okay. Les champignons, il y a deux compagnies canadiennes.
Oui, encore là.
Mais c'est, je comprends que ça peut être... ça peut être une petite nouvelle pour ben du monde. Mais il reste que c'est
producteur.
Des produits de la ferme, des produits fermiers, des produits d'agriculture sur lesquels on ajoute des droits de douane. C'est pas la fin du monde, là. Il y a Chem Fresh Farms qui se fait imposer un taux de 1,62%. Puis Farmer French Mushroom, un taux de 4,97%. On dit que c'est des droits anti-dumping, mais je pense que c'est assez clair du côté américain que, écoute, l'objectif, c'est d'aller... aller chercher un peu plus du côté agroalimentaire, puis ça revient toujours avec le fameux droit la gestion de l'offre, mais je m'excuse, je cherchais mes mots. La gestion de l'offre, ça va devenir, c'est un enjeu, on le sait, pour les Américains, et puis là, de commencer à mettre des droits de douane sur des produits d'agriculture, ben certainement que ça peut avoir un impact. Hier soir, à Montréal, c'était effectivement... c'était pas à Montréal, c'est à Buffalo, le match du Canadien, mais après ça, la police. On surveille la police, il va-tu se passer des affaires? Faites pas de feu d'artifice.
À seconde que le Canadien a gagné, les feux d'artifice sont partis dans la rue.
Il avait même pas encore commencé à se donner la main.
C'est ça.
Il y avait des feux d'artifice partout dans les rues, il y avait des pièces de pyrotechnie, on a sorti l'anti-émeute, ça a fait des images spectaculaires. Mais dans le fond, c'est pas passé grand-chose.
Non, c'est ça. Le monde voulait... Regarde, tant que ça reste ça, le monde voulait être festif. Je comprends que en pleine rue comme ça, ça peut être dangereux, des pièces pyrotechniques.
C'est dangereux.
Mais si c'est juste ça... Tant qu'il n'y a pas rien de mal qui se passe.
Il y a 21 500 véhicules électriques neufs qui ont été vendus au mois de mars au Canada. Donc, c'est le plus haut depuis 2024. Je ne sais pas si vous avez vu le topo sur les véhicules électriques chinoises, les premiers véhicules chinois. C'est des Lotus. Le prix n'est pas abordable. C'est des Lotus.
Ouais.
C'est supposé coûter moins cher, cette histoire-là.
Mais c'est vraiment des Lotus des copies de Lotus?
Ben non, c'est des Lotus.
Ah, OK.
C'est une compagnie chinoise qui a acheté Lotus. Là, ils font des Lotus électriques, puis ils mettent ça 130 000 $. Ben oui, mais...
OK, une compagnie chinoise qui a acheté Lotus. Pourquoi?
Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. D'ailleurs, je pose la question à mon père. Je vais aller voir s'il m'a répondu. J'ai posé la question un matin parce qu'il est en France à l'heure actuelle.
À quand ton char chinois? OK, s'il y en a tant que ça en France.
Mais non, parce que il y a beaucoup de BYD là-bas en Europe. Ils m'envoient des photos, il y en a partout. Vraiment, le marché est arrivé. Puis le marché est arrivé avec des chars à 22 000, à 26 000, à 30 000. Ils ne sont pas encore arrivés ici. Mais le reportage, 120 000 pièces pour un char électrique chinois, c'est ça le titre. Ouais, parce que, à un moment donné... La propagande cubaine qui est à l'œuvre. Le président cubain Miguel Díaz-Canel est sorti pour dire que ce serait un bain de sang si les Américains mettaient le pied sur l'île. Ils ont acheté 300 drones. Ouh.
Oui.
300 drones. OK, c'est correct. Mais en même temps, ce serait peut-être bon de nourrir ton peuple aussi.
Ouais, je dis rien, là. Les drones, ça se mange pas.
Puis, c'est de la propagande, on le sait, parce que toutes les fois qu'on entend parler de Cuba, les résidents sont là, eux autres, ils espèrent. Ils espèrent qu'on tente ce régime-là, qu'on finisse par le faire. Ça va possiblement arriver d'ici la fin de l'année, là, peut-être même caché pendant l'été. Mais, écoute, on faudra en reparler avec Tony Peña cette semaine.
Envoyons les drones! Ah non, les batteries sont déchargées, maudit.
Les commissions scolaires chialent. Ça, je trouve ça très... Le choix des mots, hein. Les commissions scolaires chialent à cause depuis mercredi passé, là, l'histoire des budgets, les livres, on coupe sur les livres. Dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est prendre le budget, puis au lieu de le donner aux commissions scolaires, on le donne directement aux écoles. C'est malade, là. Les directives, tu vois, le budget alloué, on passe de 261 enveloppes où tu es obligé de faire ce qu'ils te disaient avec à 37. En gros, les écoles seront beaucoup plus libres avec leur budget, avec cette loi-là. Puis là,
ça devrait être de même à grande. Oui. En fait, enlève les commissions scolaires.
Absolument. C'est tout.
Les écoles vont se rassembler elles-mêmes ensemble. Whatever. Mais les écoles, tu les laisses elles-mêmes faire des deals ensemble. Oui. Hey, tu t'organises avec deux, trois écoles du coin pour le transport scolaire. Ils sont capables. Là.
Absolument.
Laissez les directeurs diriger.
Mais moi, ce que j'aime, c'est la twist des mots. Parce que là, les gens chialent et elle dit « Ouais, mais c'est scandinave. » Quand c'est scandinave,
ah, là, ça passe là, c'est bien, bon. Hein? Oh, oui.
Quand c'est scandinave, t'as l'approbation ultime. C'est fait. Ah, ben ça doit être bon si c'est scandinave.
Oui.
Je vous rappelle que mettre deux pieds sur une table qui est faite chez IKEA, ça se peut qu'après 3 ans, elle trouve vos pieds lourds. Là. Mais c'est scandinave.
Oui.
Dans Le Soleil ce matin, la question de l'identité de l'écrivain Michel Noël refait surface. Puis je vois une couple de nouvelles qui passent de même. Là. Les Pocahontas. Comment il l'appelait, Donald Trump?
Faux Countess. Oui.
Ben, Michel Noël, qui est un écrivain, qui a souvent. Qui écrit sur les Autochtones. Je dis pas que ce qu'il a fait, c'est mal. Là. C'est même très, très bien ce qu'il a fait. Il a fait l'histoire des Autochtones. Il a écrit plusieurs choses là-dessus, de la littérature.
Mais lui, il disait l'être?
Ben lui, il se disait un Québécois d'origine amérindienne.
OK.
Un métis. Mais finalement, on s'est rendu compte que en faisant sa généalogie, qui est pas bien plus amérindien que toi puis moi, là. Donc lui, il a passé sa vie à dire qu'il l'était amérindien, mais il l'est pas tant. En fait, on dit même que, tu sais, c'est une fille qui est sortie en disant « Ouais, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas les œuvres de Michel Noël comme étant des œuvres autochtones, des œuvres de la littérature autochtone? » Puis la réponse était « Ben, parce qu'il n'est pas autochtone, pas compliqué. » On dit que quand on fait la généalogie, il est aussi autochtone que Eugénie Bouchard.
OK.
Et Gilles Carle. Ouais. Qui, eux aussi, ont dans leur généalogie une femme autochtone née en 1779.
Ben là, okay. OK, bon, au moins, il y a quelqu'un dans la lignée, là. Ce que je rappellerais Buffy Sainte-Mary.
Buffy Sainte-Mary.
Qui avait personne.
Personne, zéro.
Elle a passé comme. Puis elle, y allait avec le look, avec tout, là. Je suis une artiste autochtone. Elle a eu des prix à cause de ça, quasiment, parce qu'on lui donnait de l'exposure à cause de ça.
Buffy Sainte-Mary, on en parle dans l'article du Yann Boussière ce matin dans Le Soleil. Elle n'est pas du tout autochtone.
Pas en tout.
Contrairement à ce qu'elle prétendait.
Elle a des bouts italiens. Je ne sais plus c'est quoi ses autres origines, mais elle n'a rien d'autochtone. Mais
d'avoir
tout,
une
là.
Femme autochtone dans notre généalogie, je pense qu'on en a toute une.
Ben, moi, je pense zéro pin-ball. Regarde-moi la couleur.
Non, je comprends.
Non, il n'y a rien, là.
Je comprends, mais disons la majorité, il doit avoir quelqu'un quelque ouais. part où
ma blonde c'est possible. Non. Ma blonde, non, mais moi, c'est zéro.
Donc, voilà. Puis, je veux finir avec le vapotage parce qu'on a mis beaucoup de cash. En fait, on met beaucoup d'argent pour essayer de voir pourquoi est-ce que les gens peuvent encore vapoter avec des saveurs. On fait affaire avec une entreprise qui s'appelle Euromonitor parce qu'on se dit, tabarnouche, les dépanneurs, ça marche. Ils n'en vendent plus. Même, ils ne vendent plus pantoute de vapote, là. Ils en vendent encore. Vous me dites si on y va. Mais je veux dire, le chiffre d'affaires a beaucoup diminué. Puis là, on dit, ça doit être les boutiques spécialisées.
Ils en vendent dans toutes les autres provinces.
Ouais. Web. Pas compliqué.
Mais
ça.
Oui.
Quand tu sens la fraise, quand ça va pas, tu demandes où c'est que tu l'as acheté.
Ah, c'est Internet.
En Ontario ou au Nouveau-Brunswick.
Exact.
C'est pas illégal.
C'est livré en 2 jours.
C'est ça. C'est pas illégal d'acheter dans les autres provinces.
Même chose pour toutes les dérivés du cannabis là, qui sont pas disponibles au Québec.
En effet.
On l'achète ailleurs, en ligne, au Canada.
Je suis pas sûr que théoriquement c'est légal, mais.
En théorie, non.
En théorie, mais... non, mais ils ouvrent pas les paquets Post-Canada. Là. Parce que maintenant, le pot, en plus, est permis.
Ouais, c'est ça.
Donc,
Je parlais justement à Gomez l'autre jour avec quelqu'un de Montréal qui me disait, moi, je vais en Ontario, là, tu sais, t'es pas très loin de certains endroits. Il dit parce que j'aime pas ça avoir l'air d'un criminel quand je m'en vais dans des réserves amérindiennes. T'es watché, t'as de l'air. Fait qu'il dit je vais en Ontario chercher mes gommies, c'est parce que t'as 20 minutes de la maison, puis j'ai. Il a raison, tu sais. C'est la même chose pour le monde qui reste dans l'Est du Québec, là, qui sont à 25 minutes du Nouveau-Brunswick. Ils ont accès à des produits, eux autres, que. T'sais, les gens du Nouveau-Brunswick viennent chercher leur bière ici, puis en échange, les Québécois vont chercher leur gommise là-bas. Mais le Canada est un est pas un si grand pays que ça, dans le sens que les frontières des provinces sont quand même assez proches.
On pourrait se retrouver au ligne faire du troc. Gommise contre bière.
Et ouais, le Québec est la seule province qui, dans les deux cas, interdit, un, les gommises aux... parlant de, je lisais en fin de semaine, les deux pays dans lesquels ils se fument le plus de potes, c'est lesquels, vous pensez?
Ben, la Jamaïque.
Je vous rappelle que...
Ouais.
Ouais, non, mais je veux dire...
Allez,
les deux pays les deux pays industrialisés dans lesquels ils se fument le plus de potes.
États-Unis, Canada.
Ben, on aurait tendance à dire ça parce que c'est les deux pays qui l'ont légalisé, là. Mais non, c'est la France et la Grande-Bretagne.
Ah, oh, ouais.
Comme quoi, si vous voulez...
Enlever l'envie d'en fumer, rendre ça légal.
Ben, j'ai pas de statistiques à savoir avant la légalisation au Canada puis aux États-Unis, est-ce que c'était le Canada et les États-Unis se démarquaient là-dedans? Mais on dit que non, c'est la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux pays qui fument le plus de potes par personne. Puis en même temps, c'est deux pays qui l'ont pas légalisé. Fait que ceux qui avaient peur que ça augmente, je pense que ça a quand même augmenté là, la consommation de cannabis au Canada depuis que c'est légal, puis aux États-Unis aussi, assurément. Mais en même temps, tu vois que ça a un impact aussi sur la consommation d'alcool qui semble diminuer un peu partout. Un peu partout. En fin de semaine, il y a un article qui paraissait comme quoi les jeunes ne veulent plus boire, puis c'est pas juste au Québec, c'est partout aux États-Unis, partout. Mais il y a peut-être un lien. Si au Canada puis aux États-Unis, les jeunes ne boivent plus,
ben... Ouais. Tu sais, en même temps, tu as des produits de cannabis sans vapotage, sans odeur, sans... Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur. Ils vont vapoter ça ou vont prendre des gommies. Écoute, c'est beaucoup plus simple, je pense, que d'aller acheter de l'alcool, puis... Tu sais, tu te réveilles en lendemain de veille. Mm-hmm. C'est pas la même affaire, là.
Mais, tu sais, la corrélation légaliser égale ça va plus fumer. Visiblement, dans ces deux pays-là, ça fonctionne pas. C'est. Puis, tu sais quoi? Il devrait peut-être y penser à le légaliser.
Mm-hmm.
Parce que, veut, veut pas, dans les pays où le pot n'est pas légal, les gens le fument encore. Oui. Puis, le fumer, bon, c'est ce que ça fait, surtout quand tu as un système de santé publique. Ça scrape des poumons. Et tout aussi bien de le légaliser, ils vont en consommer pareil. Surtout que les autorités ne font plus aucun effort pour arrêter la contrebande de cannabis. C'est comme. Écoute, on a d'autres chats à fouetter. Là. Il y a le fentanyl, il y a la cocaïne. On va se concentrer là-dessus. Puis, tu sais quoi, le cannabis, on... C'est comme une plaine de bruit. Si on a le temps, on va y aller.
Ouais. Comme un vol de char.
Ouais.
Ça... Ouais, c'est ça,
maintenant. C'est quasiment ça, maintenant.
Il est à 7h10, la Légion s'en vient au retour. C'est mort à live. Hey, Dom, il n'est pas là. Je ne sais pas si vous nous avez remarqué, ouais. Dom. Dom n'est pas là. Il va être de retour lundi prochain, le 25 mai. 7h09, on vient.
Y'all ready for this?
Live. Les meilleurs au monde.
On revient dans pas long.
Live.
Radio X.